On va maintenant parler avec la docteure Joanne Blais à Québec à 16h51 de deux sujets. D'abord, on va parler de la gastro à bord de grands bateaux de croisière. Écoute, 9000 personnes à bord de ce bateau de croisière qui se retrouvent avec une épidémie de gastro. On parle de 167 passagers qui sont atteints pour l'instant. Oh, qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? En tout cas, j'ai bien hâte de t'entendre. Surtout, chère Joanne, qu'en croisière, les repas, c'est vraiment une grande partie du plaisir.
Mais écoute, moi j'essaie d'imaginer 900 personnes ensemble qui ont
diarrhée
en même temps. 9000 personnes ensemble qui ont diarrhée en même temps, ça doit être le fun. Hein?
Écoute, ça, ben, pas juste la diarrhée, tu peux vomir si t'as la gastro.
Je savais que tu rirais. Je m'excuse, mais c'est parce que je relisais tous les articles là-dessus qui ont eu lieu depuis, disons, 2010. Puis à chaque année, c'est toujours 200, 300, 400 personnes sur certains bateaux.
Ouais. Non, c'est pas drôle, nécessairement... mais sur le coup, pour eux, mais c'est, je veux dire, avec le recul, je suis sûre qu'il y en a qui doivent en rire quand même.
Ben, c'est sûr. Puis c'est étonnant parce que c'est quand même sur des bateaux très luxueux, là.
Oui, mais les virus, eux autres, ils ne savent pas.
Non, les virus, eux autres, ils s'en foutent un peu.
Complètement. Alors, bon, qu'est-ce qui arrive, là? Une personne commence à être malade, t'arrives, là, tu t'en fais pas trop, tu arrives à la deuxième, à la troisième. Que peuvent faire les gens à bord pour que ça arrête?
Bien, la première chose, c'est qu'il faut vraiment qu'ils isolent ces gens-là et qui, ça veut dire que ces gens-là ne pourront plus venir, par exemple, aller prendre un repas avec les 300 autres personnes dans telle salle ou avec dans une autre salle à manger.
De toute façon, ils n'ont pas faim.
Non, mais même s'il y avait faim, il faut que tu les isoles parce que le virus, lui, il se déplace très rapidement. Et là, c'est sûr que tu vas partir à rire, mais c'est le même virus qu'on parlait où j'avais parlé du nonovirus alors que c'est le norovirus. Je savais que tu allais rire aussi. Alors, mais c'est le même, c'est ce foutu virus-là qui est aussi sur les... Ça n'a pas de bon sens.
Excuse-moi.
Écoutez, mesdames et messieurs, elle continue à rire de moi.
Non.
Alors...
Arrête, le public va me disputer.
Bon. Non, c'est sûr que non. Mais tout ça pour te dire qu'effectivement, c'est le même virus et ce qui se produit, c'est que lorsqu'tu peux l'attraper, c'est toujours lié soit à la consommation de l'eau, à la consommation de nourriture. Donc, il se propage très, très, très facilement d'une personne à l'autre. Dans les autres, possibilité de bactéries ou de virus, mais t'as évidemment le E. coli et la salmonelle qu'on connaît beaucoup pour des problèmes gastro-intestinaux importants qu'on parle souvent, tu sais, par exemple, à l'approche des fêtes avec le poulet, la mayonnaise, les œufs, etc. Là. Mais sur ces bateaux-là, c'est rare maintenant qu'il y ait du E. coli ou de la salmonelle parce qu'ils sont tellement vérifiés que la bouffe, tu sais, tout est très, très, très contrôlé. Mais je pense que le problème très particulier de ça, c'est que les gens, quand ils rentrent sur le bateau, la première question qu'on leur pose, il faut que les gens soient vraiment honnêtes, c'est de dire, est-ce que vous avez un rhume ou une gastro? Puis probablement que quand ça se produit sur des grandes quantités de gens comme ça, c'est qu'il y a quelqu'un qui avait le virus avant de rentrer sur le bateau.
Ouais,
tu comprends?
Ouais, ouais.
Et ce qu'on dit, ben, il faut vraiment être respectueux pour les autres passagers et de déclarer qu'on a le rhume, on a une gastro. Ça ne veut pas dire qu'ils vous embarqueront pas sur le bateau, mais ils vont s'organiser pour prendre les mesures nécessaires pour éviter la propagation de ce virus-là.
Bon, mais quand tu es rendu à 160 malades à bord, là, il y a des gens qui se plaignent, qui disent on nous a pas laissé sortir du bateau pour aller visiter. On a des gens qui étaient montés à bord juste pour visiter qui n'ont pas pu repartir. C'est pas évident, là.
Non, c'est vraiment pas évident. Puis c'est pas pour rien aussi que ce bateau-là, comme tous les autres qui ont eu un visa antérieurement, bien là, écoute, il va y avoir le centre de désinfection qui va arriver. Ils vont vraiment décontaminer tout ce qui peuvent être décontaminé. Ils vont avoir des procédures sanitaires très intensif pour justement s'assurer qu'ils peuvent repartir. Puis non, que
ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens. Écoute, tu as une semaine de vacances, tu as payé le gros montant et puis tu te ramasses 3 jours malade pouvoir participer à quoi que ce soit, être enfermé dans ta chambre. Ça n'a aucun sens.
Puis je pense qu'il y a une sensibilisation importante à faire auprès des gens en disant, écoutez, oui, vous le déclarez. Deuxièmement, vous lavez les mains à chaque fois que vous utilisez les salles de bain ou que vous retournez ou que vous quittez votre cabine. Le Purel, on dit qu'on l'utilise trop, mais dans des occasions comme ça, c'est un bon endroit pour utiliser le Purel régulièrement. Puis, une des recommandations qui est souvent faite dans les croisières, c'est de ne pas utiliser les toilettes publiques, de prendre le temps de se rendre à notre cabine. Parce que ça, ça peut aussi faire en sorte de moins...
C'est 10 étages plus bas, puis au bout d'un corridor de 2 kilomètres, c'est sûr que c'est moins pratique, mais bon.
Oui.
Parce que les bateaux sont de plus en plus gros, comme tu sais. Écoute,
oui,
Joanne, il nous reste un petit 2 minutes. J'aimerais que tu nous parles rapidement quand même de cette histoire du tribunal québécois. On a pu voir ça dans la presse plus aujourd'hui. Tribunal qui rejette la demande d'un hôpital qui voulait amputer de force les deux jambes et des doigts d'un patient, un itinérant. C'est quand même assez rare comme cause, et le fait que ça se rende comme ça en cours, c'est assez inusité.
Ben oui, écoute, c'est très étonnant. Normalement, quand ça se produit, c'est vraiment parce que la personne est absolument inapte à consentir au traitement, à la chirurgie ou quoi que ce soit. Dans le cas qu'on discute, c'est sûr que c'est un monsieur qui était itinérant. Les gens du CHUM ont dit qu'il y avait un problème de santé mentale, mais il faut comprendre qu'en santé, le fait de recevoir des soins en santé mentale, ça n'a pas nécessairement un impact légal, là. Parce que jusqu'à preuve du contraire, les gens sont présumés aptes à consentir et à refuser des soins.
Et lui refusait l'amputation parce qu'il se disait qu'il ressentait, c'est ça, il y avait des engelures, il avait gelé, probablement passé une nuit dehors au froid, et on voulait l'amputer, disant qu'il risquait la mort, mais lui, il ne voulait pas. Et de toute évidence, il vit toujours. Est-ce que ça veut dire que l'amputation n'était pas nécessaire ou ça n'a rien à voir, Joanne?
Ça ne veut pas dire ça parce que ça reste quand même qu'à partir du moment où tu as une nécrose, évidemment, je n'ai pas vu le dossier, mais quand tu as une nécrose assez importante pour envisager une amputation, c'est que tu as peur que la personne développe une septicémie, mm-hmm. donc une infection complète et qu'elle décède.
Oui.
Probablement que ce monsieur-là a quand même 50% des chances de vivre et 50% des chances de mourir de septicémie.
Bon.
Mais c'est son choix.
C'est son
à lui,
choix à lui.
Il faut respecter ça.
Et la Cour a jugé qu'il était apte à prendre cette décision. Ben écoute, Joanne, merci beaucoup. Prends bien soin de toi. On se retrouve demain à la même heure. Et quant à nous, ben on s'arrête le temps des nouvelles, mais on se retrouve avec nos chroniqueurs tout de suite après. Restez des nôtres.